France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. X, Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon, est-il encore possible d'échapper à ces applis? Alors que les titans de la tech, comme le PDG de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, Mark Zuckerberg, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, celui de Google, Sundar Pichai, le PDG d'Apple, Tim Cook, ou encore Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, tous ont fait allégeance au président Donald Trump. Une broligarchie qui a durablement capté notre attention et qui façonne notre vie quotidienne du matin au soir. Broligarchie, un mot formé à partir de bro, apocope de brother qui veut dire frère, et d'oligarchie, ce régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. Alors est-il encore possible d'échapper à ces mastodontes qui se sont immiscés dans nos vies et qui savent beaucoup, beaucoup trop de choses sur nous? Quelles sont les alternatives possibles? N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à déposer des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Les appels à quitter le réseau social X, propriété d'Elon Musk, proche du président américain, se multiplient, y compris dans la presse et la classe politique française.
C'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter.
Créé en 2006, Twitter, devenu X, est un outil de communication utilisé au quotidien par 250 millions de personnes. Un lieu de débat privilégié qui dérape sur fond de déferlement de haine et de désinformation. N'y a-t-il plus de garde-fous sur les réseaux? Quels sont les risques? La question se pose d'autant plus que le fondateur de Facebook, qui regroupe 2 milliards d'utilisateurs, a annoncé mettre fin à ses systèmes de vérification des faits aux États-Unis. Une décision opportuniste pour s'attirer les faveurs de l'administration Trump.
Nous sommes arrivés à un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Je veux donc m'assurer que les gens peuvent partager leurs croyances et leur expérience sur nos plateformes.
Alors doit-on fuir X et Facebook? Faudrait-il rejoindre le réseau américain Blue Sky, qui ne cesse de faire de nouveaux adeptes, ou s'abonner au chinois TikTok? Au contraire, faut-il rester sur X pour s'opposer aux dérives et aux fake news?
Extrait d'un reportage diffusé sur Arte le 7 janvier dernier. On verra tout à l'heure s'il faut fuir X ou Facebook et quelles sont les alternatives. Bonjour Julien Falgas.
Bonjour Ali.
Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et vous êtes à l'initiative de la plateforme Needle.social. Needle, vous nous expliquez créer ce qu'est cette plateforme et comment elle fonctionne. Bonjour Olivier Lascar.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ingénieur de formation, vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, La Recherche. Vous avez publié Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, et en octobre dernier chez Erol, Deepfake, l'IA au service du faux. Un deepfake, je le rappelle, c'est un hyper-trucage qui repose sur l'intelligence artificielle. C'est une fake news sous forme de vidéo falsifiée. Quand on entend Olivier Lascar les dernières déclarations d'Elon Musk en faveur de l'extrême droite au Royaume-Uni ou en Allemagne, on aurait pu croire à un deepfake il y a encore 5 ans, à l'époque où Elon Musk était relativement proche du Parti démocrate.
Oui, c'est vrai, parce que Musk est un personnage qui n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Hein. On l'a vu faire du cabotage politique, hein. Comme vous venez de le dire, il s'est affiché à côté d'Hillary Clinton quand ça l'arrangeait, d'Obama avant, hein, parce que c'est Obama qui a ouvert les clés du spatial aux acteurs privés grandement, hein, parce qu'il y a toujours eu du privé dans l'activité spatiale, mais ce qu'on appelle le New Space, c'est Obama qui l'a inventé, entre guillemets. Musk s'est engouffré dans la brèche avec son entreprise SpaceX, donc ça l'a bien arrangé de travailler avec les démocrates. L'argent public l'a bien arrangé. SpaceX ne serait pas ce qu'elle est sans les milliards que l'État fédéral lui a versés pour devenir un taxi pour la station spatiale internationale, par exemple. Donc aujourd'hui, puis, quand il devient ce personnage d'extrême droite qu'il est devenu, c'est vrai que moi qui ai travaillé sur le personnage, sur l'aspect scientifique, parce que moi j'ai fait un travail pour essayer de faire la part du bon grain de l'ivraie, hein, comme on dit, hein, qu'est-ce qui relève du buzz et de l'enfumage dans ses annonces techniques et scientifiques, et qu'est-ce qui relève de la vraie innovation. Et il a fait de vraies innovations, Elon Musk. Hein. Donc, en m'intéressant au personnage ces dernières années, franchement, j'étais loin de m'attendre à cette transformation. Quoi. J'ai l'impression
que vous êtes vraiment étonné.
Oui, alors le coup du salut nazi, j'ai cru que c'était pour le coup, j'ai vraiment cru que c'était un deepfake. Quoi. Je m'en suis frotté les yeux. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'assister à une auto-radicalisation, à un personnage qui perd pied, quoi, finalement.
Julien Falgas, il y a peu, on parlait des GAFAM pour parler des géants de la tech, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il faudrait peut-être changer d'acronyme. Les géants de la tech sont toujours Apple, Amazon, Microsoft, mais il faut également ajouter Meta qui regroupe Facebook, Instagram et WhatsApp, et puis les entreprises dirigées par Elon Musk, hein, X, Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink, et puis il faut ajouter bien sûr Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google et de YouTube.
Oui, tout à fait. Il y a une évolution dans les entreprises qu'on va citer. L'acronyme GAFAM a peut-être pris un petit peu d'âge. Ceci étant, l'acronyme GAFAM nous rappelle que c'est un problème qui n'est pas récent. Ça fait une bonne dizaine d'années que on parle d'oligopole, de duopole dans le cas de Facebook, Meta aujourd'hui et Google, à savoir Alphabet, qui sont malgré tout aujourd'hui les deux principaux sur le secteur de la publicité en ligne. Ce duopole contrôle l'immense majorité de la publicité en ligne, du marché publicitaire, et décide finalement par leurs algorithmes de ce que l'on voit, de ce à quoi on a accès. Mmh. On entendait 2 milliards de personnes sur Meta. Là où X a une position un petit peu différente, c'est un nain à côté des autres.
Ça, il faut le rappeler peut-être. Hein.
Voilà, en termes d'audience.
Il y a un effet de loupe. Hein.
Exactement.
On parle énormément de X, mais les vrais mastodontes sont donc...
sont Meta et Alphabet. Voilà, on a TikTok venu de la Chine, mais ceci dit, X a un pouvoir de nuisance très important du fait de la population qui l'utilise. Les journalistes, les politiques sont tous, quasiment tous, sur X et sont persuadés que les gens sont sur X. Et ont instillé cette idée que suivre X, c'était suivre ce que disent les gens, ce que pensent les gens. Que les gens finissent par aller sur X pour savoir ce que pensent les gens.
C'est ça. Hein,
alors que les gens n'y sont pas, n'ont qu'une envie d'y être. Voilà.
Je crois qu'on dit que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Avec X, c'est exactement le contraire. Quoi.
Ça, c'est dans Very Bad Trip. Hein.
Voilà, il y a effectivement l'effet de loupe que vous dites. Et c'est le point faible de ce réseau social, finalement. Parce que c'est vrai que quand si on assistait à une désertification réelle de X, son pouvoir, sa force de frappe en serait mécaniquement réduite. Il est quand même frappant de constater que quand Joe Biden a décidé de retirer sa candidature à l'élection présidentielle, il l'a fait par le truchement d'un communiqué de presse qui est passé sur X. Depuis, on assiste à une forme de départ organisé en allant prioritairement sur Blue Sky. On peut se demander si c'est la meilleure chose à faire.
On va y revenir tout à l'heure.
X est a effectivement une position très singulière, et comme ça a été dit, c'est un nain. Hein, c'est sans commune mesure avec le nombre d'utilisateurs des autres plateformes.
Et nous accueillons Apolline Guillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et rédactrice en chef de The Philonomist, un site dérivé de Philosophy Magazine. Alors, les grands patrons américains de la tech, comme Elon Musk, Sundar Pichai, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, tous étaient présents à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Seul Elon Musk joue un rôle éminent au sein de l'administration Trump. Sans aucun mandat public, l'homme le plus riche du monde est doté de pouvoirs sans précédent au sein du Doge, qui est un faux ministère, c'est pas un ministère, hein, le département de l'efficacité gouvernementale. Tous ces super ultra riches, puissants, Apolline Guillot, influencent le pouvoir aux États-Unis, mais aussi en Europe, par ricochet. Il s'agit donc d'une oligarchie, et même d'une broligarchie, je le disais tout à l'heure. Broligarchie, c'est un mot formé à partir de bro, apocope de brother, qui veut dire frère, et d'oligarchie, ce régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée.
Alors c'est intéressant parce que cette brolingarchie, on a formé le mot et on a un peu redécouvert, j'ai l'impression, en Europe et aux États-Unis, que l'oligarchie n'appartenait pas qu'aux oligarques russes. Parce que depuis un certain temps, il y avait tout un travail sémantique qui était fait pour associer l'oligarchie non pas simplement à la préemption de richesse, mais à la préemption de richesse qui aurait été obtenue par des moyens illégaux. Mmh. Donc on s'est dit, les super riches, Jeff Bezos, on disait non, c'est pas un oligarque, c'est juste quelqu'un de très riche. Et ce qui se passe là en ce moment sous nos yeux, c'est qu'on réapprend qu'en réalité, une oligarchie c'est ça, c'est quand un nombre restreint de personnes détiennent par leur richesse considérable une grande part de pouvoir politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait que la richesse donne du pouvoir en soi, c'est quelque chose qui est inévitable dans une société donnée, une démocratie, une monarchie. La richesse donne du pouvoir. C'est même le pouvoir le plus fongible, quoi. C'est quelque chose qui est pratique, qu'on peut échanger, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, le pouvoir financier se transforme, se convertit en pouvoir politique. Et je dirais que si on devait prendre une métaphore, la démocratie, c'est comme dans le système électrique, les résistances qui font que le circuit ralentit, ou en tout cas que l'énergie se convertit d'une manière différente. Et donc, la démocratie doit faire opposition à cette conversion du pouvoir financier en pouvoir politique. Et là, ce qui se passe, c'est que les fusibles ont sauté et qu'il y a une transmission directe, en fait, que l'un se convertit dans l'autre de manière tout à fait directe.
Alors, des oligarques issus de la tech comme Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos mettent les mains dans le cambouis politique, mais c'était déjà le cas à la fin des années 1890 et au début du XXe siècle. Les milliardaires de l'époque, J.P. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt, étaient des oligarques qui influençaient aussi à leur manière la politique américaine de l'époque.
En fait, à l'époque, ce qui est intéressant, on fait le parallèle de plus en plus, j'ai l'impression, j'entends des historiens qui rappellent qu'en effet, on a déjà connu cette période de ruée vers la ressource. Il y a donc une espèce de comparaison qu'on peut faire entre aujourd'hui les ressources que constitue le monde numérique en général, l'intelligence artificielle, l'énergie, puisqu'elle se raréfie, et à l'époque, les premières lignes de chemin de fer, l'extraction pétrolière, et l'industrie chimique qui était naissante, où on avait effectivement des ressources qui étaient là, qui étaient en grande quantité, et une course pour s'accaparer ces ressources. Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire, et peut-être des leçons à tirer de cette époque-là.
Julien Falgas.
Alors si on revient un petit peu plus proche de nous, sur l'arrivée de l'informatique, puis du numérique, de l'intelligence artificielle, on a un phénomène qui est documenté depuis une trentaine d'années par un collègue qui s'appelle Pascal Robert, qui est professeur à Lyon, à l'ENSIB. La pensée numérique lui permet d'expliquer la manière dont les journalistes, par exemple, dans les années 70, dans Le Monde, très sérieux journal Le Monde, traitaient de la question de l'informatique. C'est-à-dire qu'il a vraiment documenté, déjà il y a une trentaine d'années, et depuis une trentaine d'années, tous ces mécanismes qui font que la technique est rendue évidente, c'est un allant de soi, on n'a pas lieu d'en discuter et démocratiquement, on ne s'en saisit pas. Politiquement, on ne s'en saisit pas. Ce qui permet de créer, comme ça, de capter de la valeur pour des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on n'en discute pas, que le débat public n'ait pas lieu sur qu'est-ce qu'on fait de cette technique, est-ce qu'on la développe, dans quelle direction, pour quelles raisons, est-ce qu'on accepte de le faire. Et aujourd'hui, ce qui se déroule autour de l'IA, c'est ni plus ni moins que toujours ce même jeu qui se joue où on nous accapare complètement la possibilité de débattre de ce que l'on veut ou pas, et dans quel sens on veut développer la technique.
Il y a l'intelligence artificielle. Apolline Guillot.
Oui, je voulais réagir à ça en disant qu'effectivement, c'est très juste c'est dans ces moments-là, un petit peu, qu'on réalise aussi qu'il y a beaucoup de débats et de choix normatifs qui sont faits en amont de l'évolution technologique. Là, on a l'impression que dans le débat public, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, on associe l'évolution technologique à une sorte d'évolution darwinienne où il y aurait une espèce de progression du plus fort, du plus sophistiqué. Et il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Andrew Finberg qui a écrit un bouquin là-dessus sur la normativité sociale dans les techniques. Et il dit les nouvelles technologies sont généralement surdéterminées socialement. Ça veut dire qu'il y a plein de choix implicites qui sont faits au moment de la conception, dont les gens qui les conçoivent ne savent même pas que c'est des choix politiques. Les ingénieurs qui sortent de Berkeley, de Stanford, très brillants, ils n'ont pas de culture
américaine.
Voilà, ils ont pas de culture politique, ils n'ont pas l'impression de faire des choix politiques, donc c'est une idéologie qui n'est même pas pensée, qui n'est même pas réfléchie et qui se révèle là, maintenant ils ont tous 40 ans et se disent tiens, je vais choisir une couleur politique et manque de chance, ils choisissent la mauvaise. Mais
Olivier Lascar.
Peut-être sur la question de la ressource, hein, puisque c'est le mot qui a été utilisé, sur ces sujets qui sont éminemment C'est immatériel, quoi, on parle du numérique, hein. Mais cette ressource, elle s'incarne aussi sur des objets très concrets qui sont les microprocesseurs. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre pour ce chantier pharaonique qui s'ouvre, qui est celui de l'intelligence artificielle, parce que tous ces broligarques que vous avez décrits sont en train de fourbir leurs armes pour ce combat, pour savoir lequel aura l'intelligence artificielle qui va s'installer et qui va devenir l'outil majoritaire. Hein. On parle de ChatGPT, évidemment, mais il y a plein d'autres outils qui sont développés.
Et ça nécessite des microprocesseurs
Ça nécessite des microprocesseurs très particuliers, on appelle ça les GPU, qui sont fabriqués majoritairement par une grosse société américaine qui s'appelle Nvidia, sur laquelle le politique essaie de jouer en limitant les exportations, notamment vers la Chine, pour limiter les développements de l'intelligence artificielle de la part des Chinois. On a vu dans l'actualité récente que ça s'était retourné contre eux, parce que les Chinois ont utilisé cette contrainte et cette limitation de capacité pour développer un nouveau modèle d'intelligence artificielle plus frugal, qui semble plus frugal avec cette appli dont on a beaucoup parlé depuis...
Vous pouvez la citer ?
Oui, c'est DeepSeek, qui est en train de...
Concurrent de ChatGPT.
Il y a déjà des entreprises occidentales qui utilisaient ChatGPT dans ces process internes, hein, pour avoir une intelligence artificielle en interne, qui sont en train de remplacer ChatGPT de OpenAI, de l'américain OpenAI, par DeepSeek, le chinois, ce qui pose des questions sur les données, etc. Donc voilà, le microprocesseur, c'est l'or nouveau, hein, c'est l'or du numérique.
Bonjour Rémi Oudguéry.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous dirigez le cabinet Sociovision, une filiale de l'IFOP, et vous remplacez Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès pendant son congé paternité. Au menu de votre chronique, les Français mode d'emploi. Quel est le menu ?
Bonjour, ça sera la technoférence.
Ouh là là, vous allez tout nous expliquer. Hein.
Grand bien vous fasse.
L'Église est modernisée depuis le pape François, figure-toi. J'ai Twitter, Instagram et je fais même parfois des sermons en Snapchat. Voilà. Mais comme la moyenne d'âge de mes auditeurs est de 82 ans, je me dois d'émettre sur les grandes ondes.
Sur France Inter.
X, Facebook, WhatsApp, Amazon, Instagram, Apple, est-il encore possible d'échapper à ces géants de la tech au moment où leurs patrons respectifs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou encore Tim Cook font allégeance à Donald Trump? Je vous propose d'écouter Elon Musk, le patron d'X, Tesla, Starlink et par ailleurs à la tête du Doge, ce prétendu département de l'efficacité gouvernementale. Il est employé spécial du gouvernement américain. C'est le titre officiel d'Elon Musk. Et là, on va l'écouter au congrès de l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, deuxième dans les sondages d'opinion des législatives allemandes qui se déroulent ce mois-ci. Et là, c'était le 25 janvier dernier.
Hello.
Can you hear me okay?
Yes, we can hear
you. It's okay.
C'est ok d'être fier d'être allemand. C'est un principe très important. Je pense que vous voulez plus d'autodétermination pour l'Allemagne et pour les pays d'Europe. Et moins de Bruxelles, c'est mon opinion. Je pense qu'il y a trop de bureaucratie à Bruxelles. Trop de contrôle de la part d'une sorte d'élite mondiale. Battez-vous pour un avenir radieux pour l'Allemagne.
Elon Musk présent, enfin en tout cas par vidéo interposée, au congrès de l'AFD, le parti d'extrême droite, le 25 janvier dernier. Olivier Lascar, est-ce que le soutien d'Elon Musk, hein, vous avez consacré une biographie très intéressante à Elon Musk, enquête sur l'homme qui défie la science, est-ce que son soutien à l'extrême droite, au Royaume-Uni ou ici en Allemagne, est-ce que ça peut nuire à ces entreprises X, Tesla, Starlink, SpaceX, Neuralink?
Alors, Tesla, je pense que ça peut nuire à Tesla, mais je pense que ses attaques, notamment envers l'Allemagne, s'expliquent paradoxalement par une intention contraire. L'Allemagne est le seul pays où Musk, en Europe, possède une gigafactory de Tesla. Une usine qui fabrique dans des conditions extrêmement optimisées, avec des coûts extrêmement réduits, etc., ces voitures. Or, c'est une usine dans laquelle il a beaucoup de problèmes avec ses ouvriers pour des questions de syndicalisation, puisqu'il refuse que dans les usines Tesla, les ouvriers soient syndiqués. En tapant sur le gouvernement du chancelier SPD proche des syndicats, il peut fragiliser... Voilà, il peut fragiliser la position des syndicats, justement, et en installant les conditions qui permettraient d'avoir un gouvernement d'ultra-droite, voire d'extrême-droite, voire de je ne sais plus comment les qualifier, il peut espérer avoir des partenaires politiques qui aient qu'il soit dans des conditions optimales pour lui assurer la gouvernance qu'il souhaite pour ses entreprises. C'est exactement le remake du scénario américain. S'il a racheté Twitter, c'est pas pour libérer la liberté d'expression, comme il l'a dit. C'était pour avoir un instrument de lobbying politique extrême qui lui permette d'installer à la Maison-Blanche le partenaire politique qui allait développer, lui permet de développer au maximum ses industries et au premier chef le projet spatial et au premier chef Mars. C'est pas pour rien si Trump a récupéré, a repris pour lui dès le discours d'investiture le projet martien et trois pas derrière lui il y avait Musk qui vibrillonnait d'enthousiasme. Sur l'Europe quand même il y a aussi une forme de vendetta parce que l'Europe a...
C'est l'ennemi. Hein.
C'est l'ennemi parce que l'Europe est en train d'installer un dispositif de régulation sur les plateformes, qui est extrêmement, je pense, pertinent et important, parce que ça permet de demander des audits internes pour voir comment sont faites la modération, ça permet de nettoyer les serveurs des fake news et compagnie. Bon. Or, ce poids du DSA, de l'IA...
DSA.
Alors, le DSA, c'est le Digital Services Act, donc c'est ce dispositif de loi prise par l'Europe pour réguler, c'est un peu la suite du RGPD, en quelque sorte, quoi, hein, pour réguler les plateformes. Dans un premier temps, les grands acteurs américains qui sont obligés de s'y plier, puisqu'ils interviennent sur le vieux continent, disaient qu'ils étaient plutôt prêts à jouer le jeu, mais évidemment, ça les enquiquine au plus haut point. Donc aujourd'hui, en fragilisant l'Europe, ils fragilisent Musk, cet ensemble de lois, et d'ailleurs ça marche, puisque l'ensemble des enquêtes qui avaient été commencées à être diligentées, elles sont un peu mises sous le boisseau.
Alors rappelons que selon une estimation de Bloomberg en décembre dernier, la fortune d'Elon Musk s'élevait à 440 milliards de dollars. Est-ce que toutes ces déclarations en faveur de l'extrême droite, est-ce que ça peut nuire à son business ? Vous avez dit que Tesla pouvait, les voitures Tesla pouvaient en souffrir.
Bah, j'imagine que les...
Déjà, d'abord, on assiste à une baisse des ventes de Tesla.
Et déjà, il y a une forme d'érosion. Aux États-Unis, on commence à voir fleurir des autocollants sur les vitres arrière des Tesla. Je ne sais pas quelle est la formule. En gros, c'est « not in my name ». J'ai acheté la voiture avant qu'Elon Musk ne vrille. Donc, j'imagine qu'en Europe, au moins... Mais l'Europe aussi est un nain sur ces activités-là. Je veux dire, l'obsession de Musk, c'est la Chine. Plus de la moitié des Tesla sont vendus en Chine. Et c'est d'ailleurs un des points de fragilité de cette alliance extrêmement inflammable entre Trump et Musk, qui vont avoir des objectifs divergents sur la question chinoise, où Trump veut maximiser les droits de douane, alors que Musk... ce marché est considérablement important pour lui. Il doit continuer à pouvoir fabriquer. Il fabrique des Tesla en Chine et il les vend.
Clash inéluctable entre Trump et Musk pour vous, à terme. C'est la une d'ailleurs de l'Express cette semaine.
Oui, je pense qu'il est inéluctable. Et pas seulement pour ces questions d'ego inflammable, mais pour ces questions politiques. Trump a réussi l'alliance entre le MAGA historique incarné par Steve Bannon avec...
MAGA, bon, Make America Great Again.
Oui, les Américains qui sont laissés de côté par l'économie, l'ultra-capitalisme, les ouvriers au chômage de la Rusty Bell. Et d'un autre côté, bah, ces oligarques qui ont les yeux vers le futur et qui sont multinationales, multiculturelles, etc. Donc cette alliance des contraires, elle va se fissurer. Et d'ailleurs, Steve Bannon commence déjà à taper à bras raccourcis sur Elon Musk parce qu'il se dispute sur la question de l'immigration. Justement, Musk veut encore une immigration choisie, c'est-à-dire les personnes hautement qualifiées. Il veut pouvoir les faire venir encore dans ces entreprises. Et Bannon le refuse.
Apolline Guillot, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du site The Philonomist.
Oui, c'est pour réagir à ce clash entre Elon Musk et Trump. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une situation un peu inédite. Et on parle beaucoup de Musk, mais il y a quand même derrière Musk, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a Meta, donc qu'on utilise tous et toutes beaucoup.
Meta, c'est Facebook, voilà. WhatsApp, Instagram.
Instagram, Facebook, bon, tout le monde n'est pas sur Instagram, mais ne serait-ce que WhatsApp, c'est un moyen de communication très courant. Il y a Google, il y a Apple. Moi, ce qui m'interroge, c'est aussi le rapport de force qui va s'installer justement entre ces grands patrons de la tech, donc pour lequel Trump est prêt à promettre des grands projets, des grands financements pour développer l'IA générale, etc. Et d'un autre côté, la base, et c'est là où je dis, c'est important de se rappeler qu'on est encore dans une démocratie, qu'il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir des oligarques qui vont, et j'espère, pas détricoter les moyens de représentation.
C'est très intéressant ce que vous dites, Apolline Guillaume, mais de quelle façon cette oligarchie de la tech menace la démocratie? Dans le Nouvel Obs, l'historienne des États-Unis Maya Kandel affirme que dans l'esprit des milliardaires de la tech, la liberté n'est pas pour tout le monde, elle est pour les puissants. Et l'un des milliardaires de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui est le créateur de PayPal et de Palantir, il écrivait dans un article publié en 2009, et je cite Peter Thiel, « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatible. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Et Pascal Richer, dans le Nouvel Obs, écrivait, dans une récente chronique consacrée à cette oligarchie, à ses bros, à ses frères de la tech, je cite Pascal Richer, « Ces frères de la tech poussent une vision simple de la politique. Il s'agit d'imposer la liberté des individus, y compris celle du renard libre dans le poulailler libre, par des voies autoritaires. Et ce n'est pas la contradiction évidente de cette approche qui les freine. »
Parce qu'on a un peu l'impression d'être dans une dystopie à la Hobbes, vous savez, ce philosophe politique qui disait « l'homme est un loup pour l'homme dans l'état de nature ». Je pense que pour une grande partie, leur imaginaire, il est vraiment structuré par la compétition, par la loi du plus fort. On le voit
la
même,
loi du Far West.
Voilà, un petit peu la loi du Far West. Et c'est pour ça que les États-Unis, c'est pas un état-nation. C'est un état qui s'est constitué par la conquête et l'extermination d'autres cultures, quand même, à la base. On se le rappelle, c'est une terre de conquête qui doit se donner une frontière et qui estime, et ça on l'a un peu oublié je pense en Europe, qu'il y a un côté messianique, un côté élu de Dieu quand même, du peuple américain depuis des siècles, et que la liberté américaine s'est construite beaucoup par la conquête des ressources naturelles et par la conquête du territoire. Et donc il y a un besoin aussi, peut-être une liberté qui est un petit peu différente, interprétée différemment outre-Atlantique, là où en Europe on l'a construit beaucoup sur effectivement une construction plus politique par la régulation, ma liberté est limitée par celle des autres. Et on voit vraiment qu'il y a peut-être deux visions de la liberté qui s'opposent, et jusqu'à présent il y avait une confusion qui nous allait très bien, on fermait les yeux dessus.
Ça nous arrangeait.
Voilà, et là on va peut-être devoir... Pardon, mais je pense qu'il y a une troisième notion de liberté qui est peut-être revendiquée par l'Asie, par la Chine notamment, où on a une vision différente de ce que peut être la vie civile, qui est du coup très contrainte.
Julien Falgas, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine.
Oui, sur cette question de liberté, ce à quoi on assiste, c'est principalement une approche du libertarianisme qui est promue à tout craint par des gens qui aujourd'hui affichent au grand jour quelque chose qui était encore peu visible, enfin qu'on ne voulait pas voir, c'est un glissement d'une prérogative politique, du pouvoir démocratique, du peuple qui décide, qui élit à travers ses représentants et qui débat de ce qu'on fait de la technique notamment, entre les mains de ceux qui détiennent cette technique. C'est-à-dire qu'à force, ces techniques qu'on a adoptées comme si c'était évident, comme si ça allait de soi, et en se disant, bah voilà, c'est devenu nos structures de communication aujourd'hui, voilà, on ne peut plus s'en passer, on croit qu'on ne peut plus s'en passer, et à partir de ça, ils ont un pouvoir exorbitant sur tout le monde. Et ce que fait Musk dans le Doge, c'est ce qu'on appelle la gestionnarisation. C'est qu'il promeut, là encore, à tout
le craint, Doge, c'est le ministère de l'efficacité gouvernementale.
Voilà. Et donc, à travers cette approche-là, il s'agit plus de gérer un État, il s'agit de dire, bah voilà, à travers mes outils, je vais le gérer. Et ce sont mes outils, les catégories qui sont intégrées dans mes outils, prétendument neutres, parce qu'on peut en faire le bien ou le mal, d'après eux, de la technique. Alors que, comme vous l'avez bien dit, Apolline, dans les outils, il y a une idéologie qui est implémentée, il y a toutes des approches qui modèlent les fonctionnalités de l'outil et qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec.
Votre regard, Rémi Houdguiri, je rappelle que vous êtes sociologue.
Moi, ce qui me frappe dans le duo Trump-Musk, c'est cette double promesse, ce messianisme dont vous parlez. C'est à la fois, on nous promet un saut dans le futur, et il y a cette phrase extraordinaire d'Elon Musk qui dit, vous savez, une civilisation digne de ce nom ne peut pas être que sur une seule planète, elle doit être sur deux planètes. C'est une phrase absolument édifiante. Et puis, il y a aussi la promesse de restauration, puisque quand même, Trump a été élu pour restaurer les vrais hommes, les vraies femmes, etc. Et ça résonne beaucoup avec un courant qu'on voit partout en Europe aujourd'hui et qui est très frappant.
Écoutons l'humoriste Pierre-Antoine Damecourt dans cet à vous, c'était en janvier dernier.
Eh bien, j'ai une grande nouvelle, une grande annonce à vous faire. Ça n'a pas été facile de l'annoncer, mais voilà, ma décision est prise. Alors là, c'est décidé. Allez, hop, je quitte X. Je quitte X, ça y est, terminé, c'est bon, Elon Musk et tout, je quitte X. Je quitte X, voilà, c'est...
Non mais ta bosse là, fais connard.
Ah ouais, d'accord, donc la vie c'est comme Twitter en fait.
Extrait de C'est à vous en janvier dernier, alors quitter le réseau social X est assez compliqué, quoique il existe des alternatives hein, comme Blue Sky ou Mastodon, mais leur force de frappe n'a rien à voir avec celle d'X. Pour l'instant, alors Lysiane Larbani, vous êtes journaliste et programmatrice dans cette émission. Vous êtes sur X, pas facile de quitter ce réseau, hein.
Ouais, parce qu'il faut dire qu'on s'ennuie un peu quand même sur Blue Sky. Alors,
vous y êtes allée.
Oui, je me suis inscrite sur Blue Sky un peu par un effet, voilà, de foule. Tout le monde est un peu parti. Moi, en tant que journaliste, il a fallu aussi que j'aille jeter un coup d'œil là-bas. Mais quand même, je dois dire qu'on s'ennuie en fait sur Blue Sky pour l'instant. C'est vrai qu'il manque ce sel et il manque aussi ces moments de cohésion sociale, en fait, des moments de société qu'on a vécu avec plein d'utilisateurs de Twitter. Alors, des moments un peu tristes, je pense aux attentats de 2015, mais des moments de ferveur aussi, lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 2018. Et la soirée la plus mémorable pour moi, c'est quand même le jour où on a arrêté le faux Xavier Dupont de Ligonnès, où tout Twitter s'était réuni pour sortir ses meilleures blagues. Et du coup, je me demande si on pourra retrouver ailleurs un endroit où on pourra être aussi nombreux à partager des idées de pensée, mais aussi des moments de vivre ensemble. Et pour l'instant, c'est un peu ça qui manque ailleurs.
Et pour aller dans votre sens, le maître de conférence associé à l'Université Paris Cité, Tristan Mendès-France, qu'on connaît bien ici à France Inter, il dit ceci, Twitter, X, a été une expérience bouleversante d'ouverture au monde. Il m'a permis de vivre des moments extrêmement forts de l'histoire récente. J'ai découvert des individus, j'ai grandi en partie grâce à cette plateforme. Et d'ajouter, mon intuition, c'est que X a été un accélérateur des travers de nos sociétés. Donc, double mouvement autour de Twitter X que décrit très bien Lysiane Larbani, Julien Falgas.
Oui, alors vous parlez d'alternatives quand vous citez Blue Sky ou Mastodon. Je préfère utiliser le terme de substitut.
Substitut.
Et oui, parce que X, on en est devenu, X Twitter, toute une classe politique. Et les journalistes obligés, contraints finalement de suivre les déclarations des politiques sur cette salle de presse virtuelle, sont devenus dépendants à cet outil, et même pas à cet outil, à ses fonctionnalités, au micro-blogging, le fait de pouvoir publier des messages très très courts à longueur de journée. C'est cette fonctionnalité qu'on retrouve sur Blue Sky, qu'on retrouve sur Mastodon, qui est reproduite comme un substitut pour des gens qui sont devenus dépendants et qui ne peuvent pas aujourd'hui abandonner X sans avoir quelque chose à la place qui rendrait le même office. Mais le problème, c'est qu'avant même Musk, dès 2017, j'ai encore souvenir, sous la plume de Romain Badoir, collègue dans la même discipline que moi, de lire une critique extrêmement fine et tout à fait juste du fonctionnement et de la manière dont Twitter, par le format qui est proposé, le nombre de caractères, le mode de publication, modèle les échanges, la communication. Et on connaît les effets de tout ça. C'est la petite phrase qui existait déjà avant. Mais avant, la petite phrase, il fallait la sortir devant les caméras. Là, on la sort à longueur de journée. C'est celui qui va le plus pousser. Il y a cet exemple criant d'une situation où Jean-Luc Mélenchon lâche un tweet qui ne fonctionne pas. Alors, c'est quelques minutes plus tard, il en lâche un beaucoup plus acerbe et là il est partagé, donc ça a réussi. C'est pas Jean-Luc Mélenchon pour le coup le responsable du fait que ça c'est parti dans les tours. C'est parce que la plateforme ne fonctionnait pas s'il ne partait pas lui-même dans les tours.
Olivier Lascar.
Oui, je pense qu'il faut se méfier d'une forme, ce qui vient d'être dit, hein, il faut se méfier d'une forme de nostalgie envers le Twitter ancien qui, dans une large mesure, a toujours été une machine à baston, quoi. Hein. Oui. C'est vrai que le format qui vient d'être décrit n'est pas un format qui participe à l'élaboration d'une pensée, d'un échange. C'est les réseaux sociaux dans leur entièreté sont des machines qui flattent l'émotion et le clivage. Hein. On sait bien qu'un contenu, c'est exactement ce qu'il vient de dire avec l'exemple de Mélenchon, plus un contenu va provoquer une réaction positive ou négative, plus il va être partagé. Donc ça n'est pas un outil qui est propice à une pensée construite, quoi, malheureusement.
Rémi Huguiri ?
Oui, et je pense que Donald Trump, c'est le produit des réseaux sociaux. Enfin, c'est un style politique qui n'aurait pas du tout été pensable sans les réseaux sociaux. C'est quasiment le premier homme politique qui sort des réseaux sociaux.
Apolline Guillot ?
Je pense qu'il y a aujourd'hui, autant que l'injonction à réagir et à être ému par ce qu'on lit, il y a aussi une injonction à avoir une opinion sur à peu près tout. Donc là, on dit qu'effectivement, c'est pas un espace de réflexion, mais c'est un espace de production de textes qui est certes et en petite phrase, mais qui rend du coup beaucoup plus accessible, beaucoup plus désirable le fait de s'exprimer à tout bout de champ sur tout et n'importe quoi. Et c'est pas un hasard si l'intelligence artificielle est apparue aujourd'hui. Grâce à toutes les données qu'on produit, c'est que les algorithmes qui font du texte répondent à une société qui est en permanence en train de produire du texte sur du texte, donc une espèce de production textuelle à l'infini qui s'éloigne de plus en plus de la réalité.
Tout à l'heure, Julien Falgas, hein, vous nous parlerez d'une alternative à ces réseaux sociaux, en nous parlant de Needle, hein, que vous avez développé au sein de votre université, on y reviendra
tout à
l'heure.
Mais ça n'est qu'une alternative.
C'est qu'une alternative, on y reviendra tout à l'heure. Allez, il est 10h44, on est très en retard. C'est l'heure de retrouver la chronique « Les Français, mode d'emploi » de Rémi Houdguiri, directeur du cabinet Sociovision.
C'est silencieux, il n'y a pas de fumée, c'est en français.
Allez, Rébé.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça, les Français.
Rémi Houdguiri, directeur adjoint du cabinet Sociovision.
Oui, alors connaissez-vous, Ali, le mot technoférence ?
Oui.
Vous le connaissez, mais peu quand même le connaissent. Et pourtant, ni le mot, ni le phénomène qu'il désigne ne sont nouveaux. Le phénomène, la plupart d'entre nous le connaissent parce qu'on le vit plusieurs fois par jour. Imaginez, vous êtes en plein milieu d'une conversation et soudain, l'un de vos interlocuteurs baisse la tête et consulte son téléphone. Et puis après, un temps qui peut être plus ou moins long, il relève la tête, il reprend le fil de la conversation. Peu après, un autre de vos interlocuteurs fait la même chose et ainsi de suite. Voilà, le mot technoférence désigne précisément cela, ce moment où se produit une interruption dans le temps passé ensemble, une interférence de la technologie. Alors c'est un chercheur américain en psychologie familiale qui a inventé le mot il y a une dizaine d'années déjà pour dénoncer cette intrusion de la technologie dans la vie des familles. Il considérait ça comme une menace pour la santé mentale des enfants. Et il avait raison. Les conséquences de la technoférence sont de plus en plus documentées. Perte d'attention, manque de concentration, baisse de l'empathie. Depuis, cette tendance s'est amplifiée à telle enseigne que dans certains milieux, c'est considéré comme un comportement normal. Alors, vous allez me dire, quoi de neuf sous le soleil ? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus supporter ces situations de technoférence. Et c'est ce que révèle une étude que vient de réaliser Sociovision, qui montre que la majorité des Français ne sont pas à l'aise dans une telle situation. 76% déclarent que quand ils discutent avec des gens, avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs collègues, bah ça les dérange que ceux-ci interrompent la discussion pour consulter leur smartphone. Alors, cette étude, elle a été réalisée également dans d'autres pays. Et curieusement, les Français ne sont pas les plus réfractaires à la technoférence. Les Allemands sont encore davantage. 84% d'entre eux sont agacés par ça. Les Espagnols aussi sont 94%. Les Britanniques sont 81%. Et même aux États-Unis, où on s'attendrait à plus d'indulgence par rapport à ça, il y a 78% des Américains qui sont agacés, soit 2 points de plus qu'en France. Alors ça m'interroge un peu sur les Français, parce que pour la première fois dans une étude internationale, ils sont moins négatifs que les autres. Alors, bon, il y a un point à creuser là. Mais le point le plus important à retenir de cette étude n'est pas là. Le point le plus important, c'est que la technoférence est mal vécue partout. Alors, dans les études, on voit bien que les générations plus âgées sont plus agacées. Mais le fait intéressant, c'est que 7 jeunes de moins de 25 ans sur 10 est agacé par cette situation.
Alors Rémi Houdguiri, que nous disent ces chiffres très élevés partout dans le monde ?
Eh bien, deux choses. D'abord, que nous avons de plus en plus de difficultés à être présents les uns aux autres. Les moments passés ensemble sont sans cesse hachés par des micro coupure, comme si nous ne pouvions plus nous empêcher de nous absenter. Un peu comme si, comme disait Rimbaud, la vraie vie est ailleurs, et bien comme si cet ailleurs se trouvait dans notre poche et c'était plus important ce qu'il y avait dans notre poche que le moment présent. C'est un peu le nouveau mal du siècle, qu'on pourrait résumer d'une formule, je suis là sans être là. Alors, ensuite, la deuxième chose, et c'est peut-être la bonne nouvelle, ces chiffres nous disent que nous supportons de moins en moins cette situation. Et le mouvement de résistance à la technoférence a peut-être commencé, alors je dis peut-être, parce que je suis prudent, et parce que peut-être ça se passe d'abord dans la tête, mais dans la même étude de Sociovision, 69% des personnes qu'on a interrogées reconnaissent souvent éprouver le besoin de s'éloigner des écrans et de se fixer les minutes, de se fixer des limites. Ainsi, près d'un jeune sur deux le déclare, dit qu'il se fixe des moments de limite. Et je suis sûr, Ali, que vous avez rencontré ces derniers jours, parce qu'on en rencontre un peu partout, qui déclarent qu'ils ont fixé des limites. Alors, moi, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite de le rencontrer dans les prochains jours.
Et qui veut réagir à cette technoférence, Apolline, Guillaume?
Ce qui m'interroge dans la technoférence là, dont vous parlez, c'est que le pendant de ça, c'est que à l'inverse, les parents des jeunes qui désactivent leur téléphone, je me demande s'il n'y a pas une injonction à la disponibilité qui fait que ça ne va pas inquiéter tout le monde de ne pas avoir de nouvelles de Jérémy, 18 ans, qui vient d'éteindre son téléphone. Du coup, je pense qu'en parallèle, on devrait apprendre à accepter l'indisponibilité qu'on a un peu désappris.
Et Julien Falgas?
Oui, alors c'est vrai que pour les jeunes, c'est très difficile, puisque même au lycée, ils sont contraints quasiment d'avoir ces appareils, y compris pour des tâches pédagogiques, sous l'injonction des enseignants, des groupes de classe WhatsApp organisés parfois à l'initiative même des enseignants, parce que tout le monde l'utilise, donc pourquoi ne pas l'utiliser, ce qui fait qu'il est très difficile de s'extraire de tout ça. Et qu'au-delà de ça, la question du nombre de minutes est finalement très secondaire, on la met beaucoup en avant, cette question du temps d'écran, là où le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces écrans, et qu'est-ce qu'on autorise les entreprises fournisseuses de services à faire dans nos poches et dans les poches de nos enfants.
La chronique de Rémi Houdguiri, les Français mode d'emploi, est à retrouver sur l'appli Radio France. Et on peut retrouver cette étude sur la technoférence sur le site de Sociovision.
Oui, sociovision.com, il y a toutes les études. Une dernière étude qu'on vient de faire, c'est sur la colocation.
Ah, très intéressant. Sociovision.com, merci Rémi Houdguiri.
France Inter,
prenez bien soin de Clovis.
Grand bien vous fasse.
Vous posterez des photos de lui sur mon Facebook?
Facebook?
Oui, c'est le curé qui me l'a installé.
J'ai aussi Twitter et Instagram. Je suis une grand-mère 2.0, comme ils disent.
Ali Rebbi.
X, Facebook, WhatsApp, Instagram, Amazon. Est-il encore possible d'échapper à ces géants de la tech au moment où leurs patrons respectifs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, font allégeance à Donald Trump? Alors vous, Julien Falgas, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de Recherche sur les Médiations et vous avez développé une technologie issue de la recherche et qui respecte les données de ses utilisateurs. Ça s'appelle Needle, N-E-E-D-L-E. Expliquez-nous ce qu'est Needle, ce réseau social assez novateur.
En 2014, j'ai quitté totalement Facebook suite à ma thèse de doctorat où j'ai pris conscience de toutes les limites de ces plateformes, bien avant tout le monde. J'avais bénéficié de pairs qui m'ont éclairé. Et après avoir quitté Facebook, et mu par ces préoccupations, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire de différents pour accéder, partager des contenus et des expressions sincères, des gens qui ont réellement des choses à dire. J'ai gambergé beaucoup autour de ce sujet jusqu'à ce que l'idée de Needle germe, cette idée que finalement cette responsabilité nous incombe à nous, internautes, citoyens, de relier entre elles, de recoudre entre elles ces expressions sincères qui nous touchent, qui nous frappent, qui sont importantes pour nous. Et donc, depuis une dizaine d'années, je m'échine à faire sortir et faire concrétiser cette idée d'offrir une plateforme qui permette aux gens d'identifier ce qui est réellement important pour eux, non pas pour l'afficher sur un profil public accessible à tout le monde et sur lequel on compte le nombre de ses followers, mais pour les mettre le long d'un fil et que la plateforme les aide à croiser les fils des autres personnes qui ont quelque chose
exemple
en commun
concret,
avec elles.
Exemple concret,
si vos auditeurs, à la suite de l'émission, utilisent, il n'y a pas rien à installer, créent un compte sur needle.social, ils peuvent ajouter l'adresse du replay de cette émission si ça les a inspirés. Ils peuvent ajouter d'autres ressources, pages, articles ou autres sur le web qui les ont inspirés. Et ils se croiseront puisqu'ils auront au moins un point commun, c'est d'avoir adhéré à cette émission.
Qu'est-ce qu'on voit concrètement sur l'écran, par exemple?
Vous allez voir des fiches c'est très similaire du partage de liens sur un réseau social en termes de vision. Vous allez voir des fiches qui vous pointent vers des liens hypertextes. Sauf que ces liens hypertextes, ils ne sont pas mis au quotidien pour exister dans un fil continu dans lequel vous n'existez plus si vous ne postez rien. Ils sont faits parce que vous espérez croiser quelqu'un qui a quelque chose de commun avec vous. Et ce quelque chose, il peut être très ténu, suffisamment ténu pour découvrir le long de son propre fil à cette autre personne des ressources que vous n'auriez jamais trouvées autrement.
Prenons un exemple concret, Rémi Houdguiri, qui adore la poésie, il aime Henri Michaud. Par Needle, s'il veut rencontrer des gens ou échanger autour d'Henri Michaud, comment ça se passe ?
Eh bien, il va ajouter des fiches qui ont trait à des articles qui traitent du sujet, ou des ouvrages, ou autres. Un ouvrage de Rimbaud, que vous citez tout à l'heure. Voilà. Bon, et il va croiser, fortuitement, et peut pas forcément de manière... Il va croiser tous les gens qui, avant lui, avaient identifié cette même ressource, parce qu'elle était importante pour eux.
Et il va pouvoir
les
contacter.
Dans 3 mois, si quelqu'un trouve cet ouvrage de Rimbaud passionnant et le touche profondément, intimement, l'ajoute à Needle, eh bien vous en serez informé et vous pourrez croiser cette personne alors que des mois, voire des années vous séparent. Ce qui n'est pas du tout possible sur un réseau social traditionnel sur lequel il se passe des choses pendant les quelques minutes et les quelques heures qui suivent et puis votre publication est chassée par les suivantes et vous n'existez plus. Et pour exister, il faut continuer d'alimenter la bête.
Et comment on fait pour accéder à Needle ? N-E-E-D-L-E ?
Voilà, point social. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur « Rejoignez-nous ».
D'accord. Bon. Qu'en pensez-vous, Olivier Lascar ? Vous êtes journaliste et ingénieur de formation.
Moi, je trouve que c'est formidable, toutes ces initiatives, pour essayer d'installer des modèles qui ne soient pas des modèles venus des États-Unis, quoi. Parce que c'est ça le problème. C'est pas par anti-américanisme primaire. C'est parce qu'il faut que il y ait une ressource locale, européenne, qui soit à notre disponibilité. Je disais que l'Europe brille dans sa constitution de normes et de lois, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on ait des algorithmes.
Et nous sommes les ennemis de la plupart de ces géants de la tech, parce que nos réglementations européennes sont parmi les plus restrictives du monde, et qu'on les entrave, quelque part.
Hein ? Complètement. Je pense que c'est une des raisons principales qui explique le comportement de Musk vis-à-vis de l'Union européenne à l'heure actuelle.
Et nous accueillons Isabelle d'Orléans. Bienvenue, Isabelle.
Oui, bonjour Alice.
Alors vous arrivez à échapper aux géants de la tech.
Ah oui, alors bon, j'ai un certain âge. je suis grand-mère, bon même, bon si j'ai pas un âge canonique, mais moi c'est une philosophie de vie, je veux pas rentrer dans ce système où on me prend pour une imbécile. Et où en fait on entretient la haine des uns vis-à-vis des autres, je pense à X par exemple. C'est pas le monde dans lequel je veux vivre et dans lequel je projette mes petits-enfants. Donc je ne suis pas sur Instagram, j'ai pas trop de compte Facebook, je ne commande jamais sur Amazon, ça c'est un principe aussi. Google, je n'utilise pas Google comme moteur de recherche et je peux vous dire que on peut utiliser d'autres moteurs de recherche type Quant. À propos de Google, bah c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas envie que Google connaisse tout de ma vie. Donc j'ai désamorcé. Enfin, j'ai la géolocalisation de mon téléphone portable. C'est-à-dire Google n'a pas à savoir ce que je fais. Voilà.
Mais il existe donc des alternatives. Vous nous avez cité au standard Linux, Firefox, Signal plutôt que WhatsApp. Merci en tout cas Isabelle de nous avoir appelé. En conclusion très rapide, sommes-nous condamnés à terme à toujours vivre sous le joug des seigneurs de la tech, Apolline
Guillaume ? Je pense qu'elle a très raison de dire qu'on peut passer en mode furtif, quoi. On peut essayer.
Olivier Lascar ?
Non, moi je suis optimiste, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives, notamment européennes, et je pense que la situation de crise dans laquelle on est installé à cause de Trump et compagnie va être un accélérateur de technologies venues de l'Europe.
Julien Falgas.
Je pense qu'il faut qu'on parvienne à s'en passer et surtout qu'on imagine d'autres possibles.
Merci.
Plus désirable que cela.
Rémi Houdguiri.
Moi, je dirais, il faut être là sans être là.
Merci beaucoup, Apolline Guillot, du site Philonomiste, et non pas The Philonomiste, Philonomiste. Merci, Olivier Lascar. On vous doit une enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. C'est publié chez Aliso Sciences. Et merci, Julien Falgas, de la plateforme Needle.social.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.